Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie de Château. Je suis Sybille et je vous emmène à la rencontre des propriétaires de châteaux. Ils nous racontent leur vie au milieu de leurs vieilles pierres, entre passion et servitude. Chaque épisode est unique, à l'image de ceux qui animent ces lieux chargés d'histoire. Et aujourd'hui, je vous emmène au château de Fontaine-Henri, situé proche de Caen, dans le Calvados. J'interview Pierre-Apollinaire d'Oliemson. Lorsque je l'ai rencontré, il portait fièrement un pantalon avec un tartan écossais et m'a proposé de boire un whisky plutôt qu'un calva, de quoi annoncer la couleur sur ses origines. Pierre-Apollinaire fait partie de cette espèce en voie de disparition. C'est le paroxysme du châtelain comme nous n'en faisons plus, mais tel qu'on l'imagine. C'est un charmant personnage qui est amoureux du lieu qu'il protège et valorise. Il a l'art de l'éloquence. Vous verrez, nous sommes souvent égarés, mais c'est son talent et son esprit d'escalier, à l'image des 52 niveaux et étages du château. On ne sait jamais où l'on va atterrir. Avec ce discours parfois composite, j'espère que cet épisode vous plaira. Nous parlons de l'histoire du lieu, de la famille, des restaurations en cours et à venir, mais aussi d'un florilège d'autres petits sujets, allant des alarmes incendies à la naissance des compétitions d'équitation au trot. Ne vous inquiétez pas, Pierre-Apollinaire, la prochaine fois, c'est moi qui vous offrirai le whisky. Je laisse désormais place à notre discussion. Bonjour, Pierre-Apollinaire d'Oliemson, merci de m'accueillir à Fontaine-Henri. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Eh bien, j'ai bientôt 74 ans. Je suis un ancien journaliste. J'ai choisi le métier de journaliste pas tout à fait par hasard, mais enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais ça a peut-être quelque chose à voir avec la manière dont j'exerce mon métier de châtelain, qui est mon nouveau métier. Donc, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui est à la retraite. Je suis châtelain conservateur du château de Fontaine-Henri, à 10 km au nord-ouest de Caen, Calvados. C'est une approche que j'aimerais d'ailleurs pouvoir officialiser. Il y a un ancien ministre des Affaires culturelles, Jean-Philippe Lecas, qui avait travaillé sur un statut de châtelain conservateur. Et j'aimerais bien que le ministre des Affaires culturelles, ou la ministre, se préoccupe de cela, si on veut avoir encore un peu de patrimoine dans ce pays, parce que ce n'est pas uniquement avec les monuments publics que l'on peut avoir la première destination touristique en France, c'est aussi grâce aux milliers de propriétaires de monuments privés.
Comment ça se passe d'être propriétaire conservateur, justement ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ?
Alors, j'exerce ce métier avec passion. J'ai pris la succession de mes parents sans les pousser dehors, qui avaient pris la succession de mes grands-parents sans les pousser dehors. C'est une continuité. La continuité d'une histoire un peu qui zigzague dans le temps, qui commence en 1200, à Fontaine-Henri en tout cas, avec une famille qui existe encore, la famille de Tilly. Il y a une branche de la famille de Tilly qui existe encore, et je les salue. Et puis, la branche aînée qui était ici s'est trouvée n'avoir pas d'héritier masculin pendant la guerre de Cent Ans, donc c'est une femme qui s'est retrouvée veuve, propriétaire châtelaine de cette seigneurie, et s'est trouvée en procès avec sa propre fille, qui voulait être calife à la place du calife, c'est-à-dire qu'elle voulait l'héritage tout de suite, mais la justice a rendu raison à la mère, car dans le contrat de mariage qui la liait à son mari, il était prévu qu'en cas de veuvage sans postérité masculine, elle héritait les droits seigneuriaux. Donc, au XIVe siècle, nous avons eu une femme, seigneur de Fontaine-Henri. Ça a été la première, mais pas la dernière femme à être seigneur de Fontaine-Henri. C'est très intéressant du point de vue du droit des femmes par rapport aux préjugés qu'on a à l'époque actuelle, en imaginant que les hommes se taillaient la part du lion et que les femmes n'avaient rien. C'est pas vrai. Alors, les Tilly se sont éteints pour ce qui est de la branche aînée. Ils ont eu pour successeurs les d'Harcourt, qu'on ne présente plus. Ici, c'était la branche de Beuvron, la branche de l'actuel duc d'Harcourt, pour autant qu'il y en ait un, parce que François-Henri vient de décéder. C'était lui le duc. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'était la branche puissante, totalement fidèle au roi de France, contrairement à d'autres qui ont émigré en Angleterre. Et à Londres, vous avez, je crois, une Harcourt Street, et dans d'autres villes également. Les seigneuries de la branche de Beuvron ont été confisquées au profit d'un Anglais. L'histoire se refait. Elle se répète indéfiniment. Un certain John Grey, qui avait le titre de Earl of Tankerville, comte de Tancarville en bon français. Et il a fallu aller au procès plusieurs fois pour récupérer les propriétés qui avaient été confisquées par les Anglais et distribuées à d'autres ayants droit. Et là, on arrive avec un certain Jean d'Harcourt, qui est un proche compagnon du roi Charles VIII, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Et je viens de découvrir, il y a un an et demi, que ce Jean d'Harcourt était un alchimiste. Et que son fils, Jacques d'Harcourt, était un alchimiste, et le petit-fils, Pierre d'Harcourt, alors encore plus que les autres. Et cette branche de la famille d'Harcourt a donné des alchimistes connus et reconnus. Et ça, je ne le sais que depuis un an et demi. Je ne suis pas du tout alchimiste, j'ai aucune culture dans ce domaine-là. Donc, ma vie ici, à Fontaine-Henri, consiste à essayer de décrypter ce château que je tiens d'une kyrielle d'ancêtres et qui était, dans le fond, ce château peu connu, mal connu, ou à propos duquel on répétait des choses convenues, mais qui en réalité n'étaient pas fondées sur la vraie vérité. Et la vraie vérité, elle est complexe, j'essaye de la dénouer, et c'est ce qui fait que j'ai une vie passionnante. Je vous dis, il y a un an et demi, j'ai découvert que ce château était alchimique, et les datations des périodes de construction, je ne les connais que depuis 10 ou 15 ans, grâce à un garçon qui a été guide ici, dès l'âge de 17 ans, n'ayant ni le bac ni le permis de conduire, mais il était passionné par le château. Il a fait son mémoire de Master 2 sur le château de Fontaine-Henri. Ce mémoire est tellement épais que c'est une véritable thèse. Il s'appelle Étienne Faisan, j'ai oublié de dire son nom, ça quand même, ça, il mérite d'être cité. Et ce garçon a complètement remis mes pendules à l'heure. Ce qui fait que ce que je peux dire aujourd'hui, mon père n'en avait pas le quart de l'ombre d'une idée. Et donc j'ai une vie passionnante parce que je fais de l'archéologie sans avoir étudié l'archéologie, je fais de l'histoire sans être historien. Mais pour moi, c'est du vécu. C'est un fil conducteur qui est familial, qui est artisanal. Les objets ont une histoire, etc., etc. Ce château est un corps vivant et j'essaye de le maintenir vivant. Et c'est pour cela que je n'aime pas du tout le terme de professionnalisation quand on parle de la gestion animation d'un château comme Fontaine-Henri.
C'est merveilleux. Je ne pose pas les questions, vous répondez à d'autres. Etc. Donc, on va revenir un peu en arrière. On va revenir sur un truc beaucoup plus en amont qui est comment est-ce que vous décririez le château à quelqu'un qui ne l'a jamais vu ?
Alors je crois que c'est Jean de la Varande qui avait dit « Le Fontaine-Henri, c'est un château de la Loire égaré en Normandie ». En fait, c'est un château très spectaculaire que l'on qualifie de château Renaissance alors qu'il est beaucoup plus médiéval que Renaissance. Mais il a une silhouette totalement atypique du fait d'un corps de logis composite d'ailleurs relativement en longueur et qui se termine sur un pavillon coiffé des toits qui sont les plus hauts de France, avec 16 mètres de charpente. Donc, on culmine à 32 mètres. Ça, je l'ai vérifié avec un drone, envoyé par ma compagnie d'assurance en prévision d'une révision de la toiture. Ça servait à faire le devis. Bon. Donc, c'est un château qui est complètement atypique et il dégage un charme qui est tout à fait improbable, étant donné qu'il est complètement composite. C'est fait de briques, de brocs et de morceaux. Il y en a partout. Savez-vous une chose ? Attendez. Il n'y a pas un vrai étage, il y a 52 niveaux différents. Ça, c'est Étienne Faisan qui les a comptés, et je lui ai demandé de compter les niveaux. Vous savez pour quelle raison ?
Dites-moi.
Pour une raison fiscale. Parce qu'on voulait nous surtaxer au motif que l'on pourrait transformer ce château en hôtel de luxe. Moi, j'ai un minimum de sens pratique. Je vois le ménage, je vois l'eau et surtout les eaux usées. Ben, par où est-ce qu'on les fait passer ? Pas dans les boiseries des salons, s'il vous plaît. Donc, c'est impossible à transformer en hôtel, surtout de luxe, parce qu'on aurait des salles de bain qui ne ressembleraient à rien. Vous imaginez ? Enfin, non, c'est pas possible. Et donc, j'ai été amené à répondre d'une manière factuelle aux impôts en leur disant qu'ils se trompaient complètement dans leurs appréciations, qu'il fallait nommer des experts, ce qu'ils détestent faire, et qu'avec 52 niveaux différents, il n'y a pas une femme de ménage qui accepterait de faire toutes les chambres, si possible qu'on arrive à en faire plus de 10. Voyez le truc.
Effectivement. Et dites-moi, comment est-ce que vous êtes devenu propriétaire ?
Très bonne question. Alors, comment est-ce arrivé jusqu'à moi ? Mon père était d'une famille de 8 enfants. Mon père était le 7e. il n'était pas a priori destiné à reprendre le château. Mais son frère aîné ne se sentait pas les épaules pour reprendre ce château et a préféré passer la main. Il y avait un autre frère, mais qui était infirme. Il y avait un quatrième frère, après mon père, le dernier, mais qui, lui, est mort comme lieutenant de la Légion étrangère en 1947 en Indochine, après avoir été un héros de la Résistance. Donc, le seul homme à la fois valide et qui acceptait de reprendre le château était mon père. Mon père qui avait la fierté d'être le premier de sa famille à avoir un diplôme d'ingénieur et à avoir fait une carrière professionnelle. Et ça, il voulait absolument que je suive ses traces. Et j'ai fait le contraire. Je suis devenu journaliste pour ne pas rentrer dans les professions d'ingénieur et dans l'industrie. Je suis devenu journaliste. Et comme je ne m'entendais pas avec cette profession pour des raisons éthiques, ben j'ai travaillé pour l'industrie, mais pas dedans. J'ai fait beaucoup de journalisme pour l'industrie après avoir été spécialiste de relations internationales. Et donc, mes parents ont géré, si on peut dire, le château, c'est-à-dire c'est une gestion familiale, c'est un château où l'on habite et que l'on ouvre au public. D'ailleurs, ma grand-mère avait déjà commencé après-guerre et c'était assez amusant parce que elle ne se dérangeait pas complètement pour les visiteurs qui étaient des petits groupes et la personne qui faisait les visites, c'était Julia, sa femme de chambre, qui avait l'accent de la Nièvre. Et un jour, dans la chambre que l'on appelle la chambre d'honneur, Julia n'avait pas été prévenue que des gens de la famille étaient restés logés après le dîner à l'improviste. Et donc, elle vient le lendemain avec un groupe de visiteurs. Elle n'avait pas été amenée à faire la chambre. Elle découvre le lit sans dessus-dessous. Et sans se démonter, avec son accent de la Nièvre, elle déclare « La chambre d'honneur ! Dans cette chambre a dormi le roi François Ier. On n'a jamais osé refaire le lit depuis. » Alors évidemment, les gens ont éclaté de rire et ils ont ressorti cela 10 ou 15 ans après à mon père dans un dîner parisien. « Ah, c'est chez vous, Fontaine-Henri, voilà ce que raconte votre guide. » C'était très astucieux. Donc ma grand-mère avait ouvert à la visite parce que ici, on a une philosophie qui est très inspirée des encycliques sociales de Léon XIII. On est dans une maison de catholiques sociaux. J'ai un arrière-grand-père et son père. Non, je vais remonter au trisaïeul, qui n'aurait pas dû naître, parce que sa mère aurait dû être décapitée à la Révolution en 1793. Elle s'appelait Mademoiselle de Saint-Perne et elle a épousé le marquis de Cornulier. Le marquis de Cornulier, les Saint-Perne, les Magon de la Balue, toute cette branche de la famille a été guillotinée le même jour. Elle se trouvait dans la charrette avec son mari, qui... lui disait « Mais dites aux gardes que vous attendez un enfant, parce que ça, c'était un motif d'annulation de la condamnation à mort. » Et elle ne voulait pas, parce qu'elle ne voulait pas se désolidariser de son mari. Et réalisant quand même qu'elle avait des enfants aînés, elle s'est dit « Non, il faut quand même que je descende de cette charrette. » Elle déclare aux gardes qu'elle attend un enfant. « Citoyenne, tu travailles pour la patrie, descends de là. » Mais on l'a virée à coups de pied. On l'a fait tomber de la charrette à coups de pied. Et comme les malheureuses carmélites dont on connaît l'histoire, elle a pratiquement assisté à la décapitation de tous ses proches. Et elle a mis au monde un garçon à qui elle a donné le prénom de son ex-mari, de son défunt mari, veux-je dire, Toussaint de Cornulier. Et pour des raisons que j'ignore, Toussaint de Cornulier s'est trouvé un jour dans le département des Landes avec son beau-frère qui s'appelait Monsieur de Monty et puis un autre ami ou l'autre. Ils étaient, ça ne s'invente pas, ils logeaient à l'auberge de la Belle Hôtesse à Orthez. Et de là, ils rayonnaient dans le département des Landes et en Gironde et ils ont fait la connaissance d'un garçon brillant qui avait de l'avenir, il s'appelait Haussmann. On l'appelle le baron Haussmann. Il n'est pas baron, mais ce n'est pas grave. Et Haussmann leur a indiqué que la succession du duché d'Albret était en liquidation judiciaire. Le duché d'Albret, c'est la famille de la mère d'Henri IV. Donc, ils ont acheté, pour 3 francs 6 sous, des dizaines de milliers d'hectares de terre qu'ils ont fait fructifier avec l'exploitation du bois, de la résine. Mais c'était à une échelle extrêmement importante. Et Toussaint de Cornulier, qui habitait quand même à Paris, un jour décide de partir à Mont-de-Marsan pour passer 4 jours et signer quelques papiers. Et là, on lui signale qu'il y a des familles de gens qui ont longuement travaillé dans leur vie, etc., qui n'arrivent plus à continuer, mais on ne sait pas très bien quoi faire pour leur venir en aide. Et il prolonge son séjour, trouve une situation pour ces personnes avant que les caisses de retraite n'existassent. Ça mérite quand même un imparfait du subjonctif, s'il vous plaît. Et puis, au lieu de rester 4 jours, il est resté 26 ans. À ne faire que de régler des questions sociales, à créer des bains publics, etc., à telle enseigne que la population de Mont-de-Marsan l'appelait l'ami des pauvres. Il a un fils, Gontran, qui avait épousé Mademoiselle Le Doulcet de Méré, qui était la nièce du propriétaire du château de Fontenay, le marquis de Canisy, passionné de peinture et qui nous a blindé de toiles de maître. Mademoiselle Le Doulcet de Méré vient habiter ici avec son mari, Cornulier, Gontran de son prénom. La guerre de 70 appauvrit les campagnes et Gontran de Cornulier se rend compte que les paysans n'ont plus de quoi vivre. Il faut trouver des ressources nouvelles pour les agriculteurs. Il se dit, mais bon sang de bois, on commence à avoir des courses de chevaux parce que c'est une mode qui vient de l'Angleterre, mais on ne peut pas élever des purs sangs dans une ferme. En revanche, on peut élever des trotteurs, il faut développer les courses de chevaux de trot. D'où la création des hippodromes de Caen, de Cabourg, de Lisieux, de Vincennes. Et Gontran de Cornulier se trouve président de la Société d'encouragement du cheval de Demissan, qui préside elle-même aux courses de trot. Et l'actuel président de la Société du cheval français, qui a pris la succession de la Société d'encouragement, me demande un jour, savez-vous combien il y a d'hippodromes référencés pour le trot en France ? Je lui dis que j'en sais rien, il me dit, il y en a 700. C'est une véritable filière économique qui est née des courses de trot. Et la ferme Bâtard, à Fontaine-Henri, est devenu un haut lieu de production de poulains destinés aux courses de trot. Et vous savez à partir de quelle souche ? Les juments de chasse à cour, parce que ces gens étaient des passionnés de chasse à cour. À la chasse à cour, on trotte, on galope pas parce que c'est dangereux. On peut faire des chutes terribles au galop, alors qu'au trot, le cheval est stable. Eh bien, on a pris des juments de chasse à cour comme mères de trotteurs de course et on les a fait élever à la ferme Bâtard à Fontaine-Henri. Et ça, les historiens du trot à Vincennes vous le disent tous les matins. Enfin, c'est très connu. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris en assistant un jour à une course qui s'appelle le Prix de Cornulier, en mémoire de mon trisaïeul et de mon bisaïeul et de mon arrière-grand-père. C'est de la folie, c'est toute une histoire sociale. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Alors moi, je suis là, fin 20e, début 21e siècle, je me dis, mais c'est l'histoire sociale qui doit guider mon travail de châtelain de Fontaine-Henri. Et j'essaye, avec des moyens réduits, j'ai pas du tout la fortune qu'avaient mes ancêtres, mais j'essaye d'aller dans cette direction-là. Ce sont les catholiques sociaux qui me montrent la voie à suivre.
Vous êtes extraordinaire. C'est incroyable à quel point on peut partir très très loin et revenir. C'est génial.
Normal, vous me faites boire.
Il nous manque juste le petit bout quand même, là où justement vous avez parlé de la transition et du coup le passé qui implique ça, mais du coup il n'y a pas votre partie. Justement, après votre père, qui était septième de cette famille de 8, comment est-ce que vous avez récupéré ce château ?
Vous avez raison de poser la question. Un jour mon père, ça me rappelle une chanson, un jour mon père me dit fiston, alors on doit savoir, parce que c'est une autre chose. Non, un jour mon père me dit, voilà, ton oncle Élie, qui a un fils unique, qui ne souhaite pas non plus... Je reprends, par 3-2-1-0. Un jour, mon père me dit, ton oncle Élie ne souhaite pas reprendre Fontaine, son fils Xavier ne souhaite pas non plus, il me propose de reprendre Fontaine à leur place, mais a priori, c'est toi qui dois me succéder. Alors, est-ce que tu es d'accord ? J'ai dit oui, je suis d'accord. Sauf que quand mon père m'a posé cette question... Je n'avais pas du tout les éléments en main pour donner mon accord, c'était comme ça. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas, ou 14, j'ai aucun souvenir. Toujours est-il que mon père a assisté sa mère, ma grand-mère, dans les dernières années de sa vie, pour la gestion du château. Mais il faut vous dire une chose, c'est que grand-mère, mon père lui disait « Maman, est-ce que je peux vous prendre un timbre pour une lettre ?»« Oui, mais tu me le rendras. » Bon. « Maman, il faudrait changer la tondeuse. Combien ? Quel est le budget ?»« 300 000 francs. Je te fais le chèque tout de suite ?» Il fallait rembourser un timbre, remplacer un timbre tout de suite, mais pour ce qui était du gros matériel, elle faisait le chèque sans inquiétude. C'était un petit peu curieux comme approche, mais mon père a tenu bon dans cette gestion en faisant restaurer les grands toits, en faisant restaurer... Oui, d'ailleurs, le jour où les grands toits ont été terminés, la foudre est tombée dessus. Enfin, bon, parce qu'il y a un échafaudage qui n'avait pas été mis à la terre et qui a attiré la foudre, il a fallu tout recommencer. Enfin, vous voyez le genre d'histoire auquel on se trouve confronté. Mon père a fait restaurer les tableaux, puis il est décédé. Ma mère a pris sa suite en travaillant exactement comme lui. Et moi, j'ai assisté ma mère et j'ai appris le métier d'une manière très lente. Je me suis dit, je ne vais pas m'improviser châtelain à l'époque où nous sommes. Donc, nous nous trouvons à la fin du XXe siècle. Je ne vais pas m'improviser châtelain alors que je ne connais pas le métier. Je ne suis pas un gestionnaire, pas du tout. Je suis journaliste. Il faut que je vois comment ça se passe et que je fasse il faut que je fasse mes expériences, comme on disait dans d'autres contextes. Et j'ai commencé à monter un événement qui s'appelle le Château Flore de Fontaine-Henri, pour lequel j'ai constitué une association avec des habitants du village. Et on a fait une grande fête des jardins, des jardiniers, des plantes, etc. Et on baptisait des roses au nom de certaines vedettes comme Marie Laforêt, Hugo Frey, Barbara Hendricks, etc. L'une des dernières roses que l'on a baptisées, c'est la rose Guillaume Gomez, c'est l'actuel chef de cuisine du palais de l'Élysée, qui est venu déjeuner à la table où nous sommes. Voilà. On a fait des choses comme ça et ça m'a appris mon métier. Ça m'a appris à faire la différence entre un succès populaire et une rentabilité financière. Donc j'ai beaucoup vu de choses. J'ai fait un festival franco-écossais, puisque je porte un nom écossais quand même, je m'appelle Williamson. Je suis membre du clan Gunn, clan du fin fond du nord de l'Écosse, mais ça c'est une autre histoire. On a fait en 2006 un festival franco-écossais. On a eu une centaine de sonneurs de cornemuses venant du monde entier. On a fait un concours international extrêmement sympathique. J'ai pas gagné un sou là-dessus, malgré une affluence énorme. Donc, j'ai fait la différence entre le succès d'estime et le succès financier. Ça, c'est de la gestion. Et ça m'a montré une chose, c'est qu'il n'y a pas deux châteaux qui soient identiques l'un à l'autre, ne serait-ce que par le fait, quand bien même ils seraient frères jumeaux en termes d'architecture, ils ne sont pas situés au même endroit, donc ce n'est pas le même métier d'un endroit à l'autre, et cela exclut la notion de professionnalisation, comme on aime à le dire, avec des procédures de gestion, etc. etc. On est toujours quand même peu ou prou dans l'improvisation. Mais ça nous oblige à avoir de l'intuition et quelquefois du génie. Mais ce n'est pas à moi que j'attribue le génie. C'est que quelquefois, on a des collaborateurs ou collaboratrices qui ont du génie. Et actuellement, je vis grâce à une jeune femme qui a le génie des animations pour les enfants. Très franchement, ce n'est pas mon talent à moi. Hein. Mais on a vu notre fréquentation se augmenter en quelques années. On est passé... Au départ, on était à 13 000 visiteurs. J'ai fait appel à des spécialistes de marketing. Notre fréquentation a chuté de quasiment de moitié puisqu'on est descendu à 7 000. Bravo le marketing. L'année d'après, j'ai recruté Élise et bon an, mal an, on gagnait 1 000 visiteurs, 2 000, 3 000 et puis maintenant, on est à 19 000. Et ça, c'est le travail d'une personne opiniâtre qui a le génie des animations pour enfants. Elle a la sensibilité enfant et elle a introduit quelqu'un que je ne renie pas complètement, Harry Potter. Donc Harry Potter, c'est mon partenaire. Je ne veux pas le dire trop parce qu'il pourrait y avoir des problèmes de droit. Mais soyons honnêtes, on s'inspire de Harry Potter, on ne le plagie pas, on ne l'emprunte pas complètement. On est dans l'esprit de Harry Potter. Et ça marche. Maintenant, ça c'est le court terme. Le long terme, qui m'appartient, c'est de développer des activités qui soient cohérentes avec la nature du château et avec son âme. Et là, on revient à des choses qui sont d'un côté plus académiques, plus universitaires. Et là, je me transforme un peu en conservateur, bien que je n'en ai ni le titre ni la fonction, mais dans l'esprit, c'est à peu près cela. Et puis, au-delà de cela, il y a le génie propre de la maison, ce qu'elle dégage. Et on retrouve ces intuitions extraordinaires qui ont été celles des siècles passés. J'ai cité l'alchimie, mais je pourrais citer Sainte Hildegarde de Bingen, qui a le grand mérite pour moi d'être à la mode, mais de nous donner des coups de projecteur sur des perspectives qui sont des perspectives très, très importantes pour notre époque, la protection de l'environnement, la psychologie humaine, la prise en compte de l'ensemble de l'être humain dans sa constitution tridimensionnelle corps, âme, esprit. Et là, on est à la fois dans le médiéval et dans les préoccupations holistiques de nos générations actuelles et voire de générations plus jeunes que la mienne. Donc j'essaye, ça paraît très très... je donne l'impression peut-être d'aller dans toutes les directions en disant cela. Or, tout cela, c'est un puzzle auquel il faut donner toute sa cohérence. Il faut voir l'image globale du puzzle en ramassant les pièces là où elles sont et en les rassemblant.
Et est-ce que les différentes parties de ce puzzle, vous les avez dans vos différentes activités ou est-ce que c'est encore en construction aujourd'hui ?
Alors, intellectuellement, j'ai tous les éléments. Dans le concret, je suis en train de réunir les pièces pour en faire un ensemble cohérent. Je suis dans ce travail-là, pendant que Élise gère le quotidien. Et ça, c'est providentiel. On a deux personnes qui se complètent, l'une qui gère le quotidien et l'autre qui essaye de pérenniser quelque chose pour l'avenir, le pérenniser à la fois dans l'esprit et dans la rentabilité financière, parce qu'on parle de gros sous quand même.
Et justement, l'avenir du château, comment est-ce que vous le voyez ?
Je n'ai pas trop envie de le dévoiler parce que c'est peut-être encore de l'ordre du rêve, du fantasme, c'est peut-être encore un peu flou. J'ai une fille, mais qui est veuve et qui a une fille unique qui va avoir 12 ans. Donc, ma fille et moi, nous réfléchissons ensemble. Alors, j'ai une fille qui n'a pas le même tempérament que son père. Elle est artisan, ce qui est merveilleux parce que s'il n'y avait pas des artisans, il n'y aurait pas de château. Parce que l'on parle de tapis, que l'on parle de murs, de toitures, de tableaux, de tables, de cadres, etc., il y a toujours des artisans derrière et sur des générations et des générations. Donc ma fille a cette fibre de l'artisanat. Elle est tapissier-garnisseur et son tempérament, c'est la tornade blanche. Donc elle met de l'ordre là où son père met du désordre. Donc nous allons avoir très prochainement une énorme séance de remise en ordre avec une vingtaine de bénévoles qui vont remettre précisément de l'ordre là où j'ai mis, moi, un désordre absolument insoutenable. Mais on travaille en bonne intelligence. Quelquefois, permettez-moi le néologisme, j'ai un peu tendance à glurpser, mais on va y arriver et on fait tout pour... N'est-ce pas ? J'allais citer Saint Jean-Baptiste qui disait aplanissez les chemins du Seigneur et redresser ses voies. Bon, c'est un petit peu ça. L'avenir appartient à Dieu, il faut aplanir et redresser les chemins.
Merveilleux. Peut-être pour conclure, est-ce que vous voulez bien me parler de vos récents projets et les prochains et récents projets ? Je sais qu'entre autres, vous essayez de lever des fonds pour une restauration en particulier.
Alors, j'ai plusieurs restaurations en cours. La restauration de la chapelle qui a commencé avec des financements participatifs. Et grâce à la solidarité des amoureux du patrimoine, des visiteurs et des gens qui sont sensibles à ce que peut devenir une chapelle, on l'a complètement assainie sur le plan de l'humidité. Maintenant, il y a le chœur qui aurait besoin d'être restauré. Or, il y a des fausses pierres à la peinture rouge qui datent du XIIIe siècle. Donc, il faut que je les reconstitue. C'est déjà un gros budget avant de faire autre chose. Mais sur le plan sécurité, j'ai une préoccupation qui est d'assurer une meilleure sécurité contre l'incendie. Parce qu'alors là, c'est le drame absolu s'il y a une étincelle qui se développe un petit peu trop. Et j'ai une galerie et une salle à manger qui représente un danger. Alors un danger que je limite avec des protections différentielles très très prudentes, mais j'ai tout un circuit électrique qui est derrière une tenture énorme et qui est complètement sèche et qu'il faut que je remplace. Et le budget d'acquisition de la nouvelle tenture est énorme. Même si le prix du remplacement des réseaux électriques anciens de 1930 par des choses modernes est, lui, modeste. Mais il faut découvrir les murs et les recouvrir à nouveau. Donc, pour cela, je vais peut-être devoir faire appel au financement participatif et je suis en train d'instruire des dossiers de protection contre l'incendie et contre le vol, dans la mesure où les intérêts sont quelquefois contradictoires. Il faut tout fermer pour que les cambrioleurs n'entrent pas facilement. On a déjà été plusieurs fois cambriolés, je prends des précautions paranoïaques, mais il faut que les pompiers puissent entrer facilement et rapidement.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez de cette dichotomie d'ouvrir toujours plus pour faire connaître le lieu et le conserver, et le fait que l'ouvrir, justement, l'abîme, entre guillemets?
Eh bien, vous rejoignez une préoccupation que j'ai depuis des années. Nous avons 19 000 visiteurs. Ils ne rentrent pas tous dans le château parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent en dehors du château, qui sont des activités ou ludiques ou culturelles, mais qui touchent plutôt les extérieurs ou qui utilisent les espaces extérieurs. Et là, il est certain que si nous avions 50 000 visiteurs dans les escaliers, déjà j'ai un escalier à refaire, et ce n'est pas rien, c'est-à-dire que les marches se décrochent. Je ne peux pas jouer à ce jeu-là. Donc, il n'est pas question d'aller vers les 50 000 visiteurs dans la maison, même si ça se répartit sur toute l'année. En revanche, il y a des choses très intéressantes, très instructives ou très amusantes, ou tout cela ensemble, à faire autour du château et dans le parc. Et je travaille beaucoup à tâcher de mettre en place quelque chose qui ne dénature pas les lieux, au contraire, qui les valorise, mais qui permette d'avoir une exploitation des espaces extérieurs, parcs et communs, optimisés pour parler moderne.
Est-ce que vous avez un mot de la fin ?
Le mot de la fin. Alors, il y a une préoccupation de cohérence. Cohérence par rapport à la maison elle-même, par rapport à son histoire et à son identité propre. Il y a aussi une question de cohérence. J'ai évoqué les préoccupations sociales de mes ancêtres et de la famille. Il y a une préoccupation de cohérence avec l'environnement géographique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas isolés comme ça. Nous sommes liés à un territoire, liés à une population. Nous sommes à 10 km au nord-ouest de Caen. Nous sommes dans un village qui était un village agricole qui est devenu une espèce de commune dortoir de la ville de Caen. Et il faut arriver à avoir une communication harmonieuse et enrichissante avec notre voisinage humain. Et ça, j'y tiens énormément. Et j'ai des propositions à faire à la région Normandie. Je crois que nous avons à la région Normandie des gens qui sont à l'écoute de cette préoccupation d'une cohérence des territoires entre leurs différentes composantes, composantes monumentales, composantes humaines, composantes professionnelles et composantes sanitaires aussi. C'est-à-dire que, quand je dis sanitaire, je ne pense pas du tout aux masques et aux gels hydroalcooliques, mais je pense à la sécurité, à la santé dans l'assiette. J'ai un jour eu mon chemin de Damas écologiste en allant dans un supermarché. Je ne sais pas faire la cuisine, j'ai voulu acheter des haricots, je les ai choisis sur leur bonne mine. J'ai regardé l'étiquette, ils venaient du Kenya. Je me suis dit, mais bon sang de bois, est-ce qu'on les a fait voyager en première classe, ces beaux haricots ? Qu'est-ce qu'on va acheter des haricots au Kenya ? Comme si nous n'étions pas capables de produire de très bons et de très beaux haricots ici. Or, Fontaine-Henry est le lieu de création d'un haricot blanc qui s'appelle le Petit Carré de Caen. Alors, ce n'est pas vraiment le lieu de création, c'est son lieu d'invention. C'est-à-dire qu'il a été mis à l'inventaire de la Société d'horticulture de Caen par la marquise de Canisy au XIXe siècle, lorsque des gens de cette Société d'horticulture sont venus visiter son potager, qui était un peu un potager modèle. Et le jardinier, qui s'appelait Brion, a été tout fier de leur présenter ce petit carré, ce petit haricot blanc de forme carrée qu'il ne connaissait pas et que du coup on a appelé le petit carré de Caen. Et ça a été un haricot très prisé jusqu'à ce qu'on industrialise la production des haricots et qu'on aille les importer du Kenya. Donc je vais militer pour le petit carré de Caen comme maillon de transmission entre le terroir où je suis, la population qui m'environne, les chefs cuisiniers, les traiteurs et les maîtresses de maison ou les maîtres de maison qui font la cuisine.
Un immense merci.
Merci à vous.
Merci de votre écoute. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite s'il vous a plu. Et si vous avez un iPhone, merci de penser à écrire un avis positif, cela m'aide beaucoup. Et surtout, parlez-en à vos proches. Aidez-moi à faire connaître ce travail qui permet de faire découvrir ces lieux et mettre en avant notre beau patrimoine. Pour découvrir en photo le château, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux du podcast, Instagram, Facebook principalement, ainsi que LinkedIn et Twitter où je partage d'autres informations. Vous pouvez retrouver aussi quelques articles, l'inscription à la newsletter et des informations supplémentaires sur le site internet lavidechâteau.info. Je vous mets également des liens vers les réseaux sociaux et le site du château de Fontaine-Henri, si vous aussi vous souhaitez partager un whisky avec Pierre Apollinaire. Enfin, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et je vous dis à très vite.